Laurent Spielmann m'a rejoint à ce micro d'Accent 4. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'Opéra National de Lorraine. Et en entendant la voix de Jonas Kaufmann, vous me disiez, je ne l'aurais probablement jamais annoncé.
Non, parce que Jonas Kaufmann a choisi les endroits où il veut chanter. Donc il ne nous connaît pas. Mais c'est comme ça. On a du plaisir à l'entendre.
Voilà. Alors, est-ce que c'est difficile pour un directeur général de venir en direct à 8h du matin ?
Ah non, pas du tout, au contraire. Moi, d'abord, je suis un lève-tôt, puis ensuite, je suis ravi d'être sur votre antenne et d'être à Strasbourg, c'est quand même ma ville.
Voilà, et vous y habitez d'ailleurs ?
J'y habite aussi, pour part, oui.
Laurent, on va parler un petit peu de l'actualité de l'Opéra National de Lorraine, avant de parler de Noël. Hier avait lieu la première d'une nouvelle production qui s'est, a priori, très très bien passée.
Oui, on était très heureux, Hansel et Gretel de Engelbert Humperdinck est une œuvre absolument géniale. Humperdinck était un assistant de Richard Wagner. Et il a été très influencé, évidemment, par Wagner, mais aussi par Mahler, mais aussi par les Autrichiens qui écrivaient de l'opérette. Donc il a un univers musical qui est assez remarquable. L'œuvre est magnifique. L'œuvre est magnifique, tout simplement. C'est une œuvre qui est beaucoup jouée en Allemagne, bien sûr, beaucoup jouée en Autriche, et très peu jouée en France. Et on était vraiment très heureux de proposer ça aux anciens, et s'est trouvé que les gens, je crois, ont le souvenir dans leur enfance d'avoir écouté l'une ou l'autre fois ce magnifique conte des frères Grimm, et ont voulu en faire aussi partager le plaisir qu'ils avaient quand ils étaient enfants, les peurs qu'ils avaient à l'écoute de ce conte avec leurs propres enfants ou leurs petits-enfants, ce qui fait qu'on avait une salle, et toutes les salles sont quasi complètes jusqu'à la fin de la série, leur faire découvrir cet univers.
Oui, parce que c'est un conte qui peut faire peur, effectivement.
Ah ben c'est fait pour faire peur, les contes, sinon c'est pas la peine.
Voilà. Racontez-nous ce qui se passe.
Alors c'est une histoire toute simple, ce sont des enfants qui... une famille qui n'a pas, qui est sans le sou, qui n'a plus d'argent du tout. Les enfants sont comme tous les enfants, ils font du bruit, ils s'amusent, ils ont du plaisir à vivre ensemble, et en même temps ils ont faim. Et les parents, eux, la maman est vraiment essaye de surveiller, d'élever le mieux qu'elle peut ses enfants qui sont très turbulents, et elle les envoie lorsqu'elle voit qu'ils n'ont pas fait leur devoir. Elle les envoie en tout cas chercher des fraises dans la forêt parce que il n'y a plus rien à manger à la maison. Et le père revient, les enfants sont partis dans la forêt, le père revient avec des provisions, il a enfin vendu beaucoup de choses ce jour-là. Il ramène des provisions, il les ramène même du café, ce qui est formidable. Et ils sont très heureux, les parents, sauf qu'ils se rendent compte que les enfants sont plus là, et le père demande, mais où sont-ils? Il dit, mais dans la forêt. Il dit, mais c'est très dangereux, il y a une sorcière dans la forêt, ils peuvent se perdre, il faut qu'on aille à la recherche. Les enfants, eux, dans la forêt, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent, et ils mangent les fraises qu'ils ont ramassées, et finalement, c'est la nuit, ils sont perdus, le marchand de sable vient les endormir, et le matin, quand ils se réveillent, ils sont devant une très très belle pâtisserie. Dans l'histoire, c'est une maison de pain d'épices. Et ils commencent à manger la maison. Mais la sorcière est là, et la sorcière est toute heureuse de les voir parce qu'elle veut les nourrir, les gaver avant de les mettre dans le four, de les rôtir et de les manger. Et les enfants, heureusement, s'en sortent très bien. Et finalement, c'est la sorcière qui va dans le four et pas ni Hansel ni Gretel. Et les parents retrouvent les enfants, ils sont tout heureux de les retrouver. Et la famille est de nouveau ensemble.
Alors, comment le metteur en scène a imaginé ce spectacle ?
Alors, c'est Emmanuel Bastet qui nous a monté cette production, qui est de l'opéra de Nantes-Angers. La distribution est nouvelle, c'est la distribution que nous avons fait à Nancy. Et elle raconte ça comme étant une histoire qui se passerait aujourd'hui dans un espèce de boulevard où il n'y a plus grand-chose, il y a des poubelles qui sont sur le trottoir, et ces gens-là habitent dans ces grandes poubelles qu'ils ont aménagées. Et au départ, les gens se disent, mais c'est pas l'univers qu'on cherchait, on cherchait les sapins pleins de neige, etc., pas du tout. Et il se dégage de cette scénographie une forme de poésie absolument incroyable, puisque tous ces lampadaires se transforment au fur et à mesure, comme si c'était une grande forêt dans laquelle les enfants se perdent. Tout ça est très très bien réalisé, très poétique. Et puis dans la deuxième partie du spectacle, on se retrouve dans une pâtisserie incroyable avec plein de gâteaux, des vrais et des faux, hein. Mais les enfants savent où sont les vrais, où sont les faux, bien sûr. Voilà, mais non, c'était un très très beau, une très belle scénographie, un très beau projet qu'a monté Emmanuel Bastet, qui avait déjà réalisé chez nous l'œuvre de Bizet, Les Pêcheurs de Perles.
La production, on peut la voir jusqu'au...
Jusqu'au 27. Il y a encore quelques places. Il faut venir le soir même. Alors, les Strasbourgeois, faites le voyage, venez me voir, et puis j'essaierai de vous trouver encore quelques places.
Ah, là, le message est passé. Après, au mois de janvier, ce sera Janáček.
Après, on change de registre, oui. Janáček, Katia Kabanova. Ça, c'est Philippe Immelmann qui va nous le monter. Philippe Immelmann est un metteur en scène allemand avec lequel nous avons travaillé très régulièrement depuis de nombreuses années. Et notamment, il a produit pour nous une œuvre magnifique, un projet magnifique qui était Korngold, La ville morte, que nous avons repris déjà deux fois, que nous avons envoyé dans de nombreux théâtres, qui est une œuvre référence, une production de référence de Nancy, et qui va repartir d'ailleurs à Toulouse cette année. Et je ne sais pas, ça a été déjà monté 6-7 fois en France. Et c'est vrai que c'est une très très belle réalisation. Et là, c'est Katia Kabanova. Alors, il y a une référence strasbourgeoise avec, ou plutôt qui vient d'Anvers, que Marc Lemmer nous avait ramené ici en Alsace, qui était une très belle Katia Kabanova, que j'avais beaucoup appréciée. Là, c'est un autre univers que nous propose Philippe Immelmann, un univers plus glacé, qui est celui de ces grands immeubles de Berlin-Est dans lesquels se situe cette œuvre. Et on se réjouit beaucoup. Ce sera un projet scénographique extrêmement intéressant, très difficile à réaliser pour nous, mais on prend du plaisir. Enfin, les constructeurs chez nous se réjouissent déjà de monter cet ouvrage, qui va nous demander beaucoup de travail. Mais j'espère que le résultat sera à la hauteur de ce rendez-vous qu'on s'est fixé. Et dans le rôle de Katia Kabanova, il y aura Elena Juntunen. Elena Juntunen, qui a chanté d'ailleurs à Strasbourg il n'y a pas si longtemps, une Salomé, et qui avait chanté chez nous. Elle est venue très régulièrement à Nancy. C'est une très très grande artiste finlandaise qui est à la fois actrice et chanteuse. Et la voir sur un plateau, c'est tout simplement merveilleux.
Alors cet univers glacé du metteur en scène, je me demande si ce n'est pas un peu une constante, parce que sa Tosca à Baden-Baden était particulièrement glacée.
Oui, mais elle était dans un univers qui est celui des computers, de ces ordinateurs qui sont effectivement glacés, qui sont la non-vie. Là aussi, mais on est dans des bâtiments, des constructions des années 50, comme on le faisait dans les pays de l'Est. Oui, ce sera glacé aussi, mais Katia Kabanova est un peu glacée.
Mmh. Le Grand Est, la région existe, le Grand Est depuis maintenant 2 ans, je crois, au mois de janvier, au mois de juillet. Il y aura des échanges entre les différentes maisons d'opéra.
Je pense, oui. Je pense que l'avenir nous réserve des belles surprises, des collaborations plus importantes entre les théâtres. Nous sommes 4 théâtres, 2 opéras nationaux, Strasbourg-Nancy, et puis 2 théâtres de région, Metz et Reims. Donc c'est l'occasion pour les différents responsables de ces villes et de ces institutions de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'elles ont à faire ensemble, qu'est-ce qu'elles ont à mener comme combat commun, à la fois pour être présents sur l'ensemble des territoires et pas seulement dans les grandes villes, mais aussi pour voir dans quelle mesure on peut trouver des liens plus forts entre Reims, Metz et Nancy. Ça dépend beaucoup des élus. Les directeurs sont là pour mettre en place des politiques culturelles qui sont décidées par ailleurs. Ils sont là aussi pour conseiller leur tutelle. On a déjà dans le Grand Est un projet qui existe depuis 1972, qui est Strasbourg-Colmar-Mulhouse. Donc est-ce qu'on est en mesure de monter un projet de même nature à l'ouest de l'Est ? Mais aussi, il y a, je crois, en tout cas, entre Strasbourg et nous à Nancy, une relation... pas seulement sympathique, mais très agréable, avec les différents directeurs qui ont été présents à Strasbourg ces dernières années. Et nous avons, avec Eva Kleinitz, un projet des 18-19, un projet commun que nous mettons en place. Donc, non, on s'entend très bien les uns et les autres.
Et cette année, il y a un Werther à Nancy et un Werther à Strasbourg.
Oui, alors ça, c'est une belle histoire parce que lorsque j'ai rencontré Eva il y a un an et demi, que nous avons parlé ensemble de nos projets respectifs, c'était presque il y a 2 ans, et quand je lui ai annoncé la saison nancéenne, elle est devenue un peu blanche en me disant « Mais écoute, j'ai 3 de mes spectacles qui sont identiques aux tiens. » C'était encore ses projets, alors que nous, ils étaient déjà en phase de réalisation. Donc elle en a changé 2 d'entre eux pour cette saison. Mais Werther, elle ne pouvait plus parce qu'elle avait déjà un engagement ferme qu'elle avait pris. Et ce qui fait que, voilà, ça s'est passé comme ça, rien de très grave. On s'est demandé si on ne pouvait pas en profiter pour faire des échanges de public, pour que les publics voient 2 manières, 2 Werther différents. Et c'est pas au même moment, mais enfin, nous invitons à la fois les Nancéens et les Strasbourgeois à rejoindre l'autre ville pour voir comment on fait ailleurs. Voilà.
Très bien. On va continuer à discuter, Laurent, on va parler un peu de Noël, mais je vous ai demandé de venir avec un disque, avec votre choix musical. Alors, quel est-il ?
Alors, j'ai choisi un pianiste et un peu compositeur, en tout cas un interprète-compositeur qui est Vladislav Spielmann. J'ai choisi ce nom parce que c'est un très beau nom, tout simplement, mais aussi parce que son histoire est tellement particulière. Voilà, le pianiste de la radio polonaise qui donne le dernier air de piano avant que les Allemands arrivent dans le studio et dans la radio polonaise pour prendre main sur ce média, et qui reviendra pour ouvrir la radio polonaise au départ des Allemands en 1945. Et qui s'est caché pendant toute la guerre. Il était le pianiste de la station et il agrémentait à travers ses musiques. Et il jouait toutes les musiques, évidemment. Il jouait beaucoup Chopin, mais il jouait aussi les musiques américaines, il jouait Gershwin et il écrivait lui-même.
Une vie racontée par Roman Polanski.
Dans le film Le pianiste, oui.
Qui a obtenu plusieurs récompenses.
Oui,
même,
il a eu une palme d'or, oui. Oui.
Bon, et alors vous avez choisi une œuvre de ce compositeur.
Ah oui, je me suis dit, si déjà on connaît peu Vladislav Spielmann, si ce n'est à travers son film, le film de Polanski, écoutons un peu aussi ce qu'il écrivait. Voilà.
Et c'est une mazurka, en bon polonais.
C'est normal. Thank you.
Voilà, nous écoutions une mazurka. Vous nous rappelez le nom de l'interprète-compositeur, Laurent ?
C'est Vladislav Spielmann.
Voilà, et il est 8h14 à l'antenne d'Accent 4 et Laurent Wolf, Franck Wolf, pardon, vient de nous rejoindre. Et Franck, je crois que les conditions météo n'étaient pas faciles, les conditions de circulation n'étaient pas faciles en raison de la météo.
Absolument, bonjour à tous. Bah oui, là je viens de Pfaffenhoffen, j'ai mis 2 heures pour venir à Strasbourg ce matin.
2 heures pour passer quelques minutes avec nous, ben, c'est un grand merci.
Avec grand plaisir, Franck. Merci de m'accueillir.
Bon, on va parler bien sûr de votre disque jazz, mais auparavant, je vais vous faire parler de Noël tous les deux, Laurent et Franck. Quel souvenir vous avez de Noël, Laurent ?
Le froid, en général, mais bon. Non, j'ai que des bons souvenirs à Noël, mais c'était sont des fêtes de famille, donc on se retrouve en famille, donc on s'amuse bien.
C'était un moment attendu pour le petit Laurent ?
Ça a toujours été un moment attendu dès qu'il y avait une fête. Hein. J'étais déjà épicurien quand j'étais tout petit.
Et vous, Franck ?
Ben, ça nous fait un point commun. Moi aussi, je suis épicurien depuis que je suis petit. Ben, Noël en Alsace, c'est Noël en famille. C'est le sapin, c'est les cadeaux, et puis c'est le foie gras, etc.
Le bon
etc.,
vin.
Quoi, le bon vin, oui, ça c'est plus tard, quoi. Pas dans mon enfance, mais oui, les belles tablées, quoi, familiales.
La dimension religieuse a une importance pour vous, deux ou pas ? Aucune ?
Non.
Est-ce que vous avez été un jour déçu par un cadeau, Laurent ?
Je dirais pas, je ne peux pas dire, ça reste entre la personne qui m'a offert le cadeau et moi.
Ben, moi, c'est pas que j'ai été déçu, mais je sais que mes parents m'ont raconté que quand j'étais petit, j'étais gâté pour un enfant né dans les années 70. J'avais eu un train électrique, j'avais eu plein de choses, et en fait, je m'amusais pas avec mes jouets, je jouais avec une boîte de camembert en bois dans le couloir que je m'amusais à faire rouler, quoi, vous voyez. Donc, je sais pas si c'est lié à la déception d'un cadeau, mais c'est une anecdote qui m'est restée.
Et vous aimez faire partager ce temps de Noël avec vos enfants ou petits-enfants C'est un moment attendu, c'est vraiment l'esprit de la fête.
Pas encore de petits-enfants, mais avec les enfants, oui, quand ils viennent, ils me font le plaisir de venir me voir, oui.
C'est marrant parce que moi, mon fils est adulte, il est en couple, et c'est presque devenu plus important pour eux que pour nous.
D'accord.
Voilà, bon. Ce moment de retrouvailles en famille.
Alors Laurent, on va parler un petit peu de votre disque qui vient de paraître. C'est un disque, Franck et ses amis.
Oui.
Racontez-nous un peu l'histoire de cet enregistrement.
Alors cet enregistrement, c'est une compilation de concerts que j'ai fait ces 5 dernières années, dont la moitié à Urvillers, parce que j'organise un concert annuel dans mon village à Urvillers le premier samedi de janvier. D'ailleurs, le prochain, c'est le 6 janvier. Les réservations sont encore ouvertes. Il ne reste pas beaucoup de place, mais il reste un petit peu de place. On peut trouver ça sur mon site internet, frankwolf.com. Et donc, il y a quelques concerts que j'ai donnés à la Castine, à Reichshoffen, au Centre culturel, et un concert au Point d'eau à Oswald. Donc il y a 7 formations différentes, il y a plus de 20 musiciens, et c'est une très belle compilation. Moi, j'avais toute cette musique dans mes tiroirs, parce que ces concerts ont été bien enregistrés. Et un jour, une mouche m'a piqué, j'ai réécouté ces 12 heures d'enregistrement d'affilée en prenant des notes et puis en faisant tout de suite une première sélection, puis un peu plus tard une deuxième sélection pour arriver à un album d'environ 75 minutes.
Alors vous citez le nom de tous vos amis, mais vous, comment, de quelle manière vous avez rencontré le jazz, Franck ?
J'ai rencontré le jazz à travers les disques, certains disques de mon père quand j'étais enfant. Il écoutait pas beaucoup de jazz moderne, mais il avait un disque de Sidney Bechet, un disque de Glenn Miller, un disque de Louis Armstrong. Je me souviens quand j'avais 11 ans et que je préparais mon concours d'entrée au conservatoire en classique. Donc ma maman, elle me grondait parce que je jouais à l'oreille in the mood sur le disque de Glenn Miller. Mais finalement, grand bien m'en a pris parce que pour le jazz, on apprend beaucoup comme ça aussi, en écoutant les disques, en essayant de reproduire les grands maîtres et en travaillant son oreille.
Et vous, Laurent, le jazz, vous aimez ?
Ah, moi j'adore, mais moi j'ai pas eu cette belle histoire autour de Sidney Bechet ou Louis Armstrong. Moi c'est Cecil Taylor que mes parents écoutaient. Donc Cecil Taylor, c'était un musicien, un pianiste absolument incroyable de jazz. Est-ce que c'était encore du jazz ? Je ne sais pas. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable, ce qu'écrivait Cecil Taylor, ce qu'il jouait, ce qu'il interprétait. On est très proche de la musique contemporaine avec Cecil Taylor. Et donc, c'est ça qui m'a bercé. Et c'est intéressant de parler de berceuse quand on parle de jazz, et de ce jazz-là en particulier. Non, mais j'adore ça.
Cecil Taylor ?
Ah oui, pas de commentaire, formidable artiste, c'est un des pionniers de ce qu'on a appelé le free jazz, vraiment, oui, très très bien. Moi c'était, ça n'a pas été ma culture dans mon enfance, j'y suis venu par la suite, puisqu'à l'adolescence, j'ai découvert Miles Davis, John Coltrane, Cecil Taylor, etc., et tous les grands artistes, la plupart des courants du jazz, quoi.
Vous avez un parcours classique, donc?
J'ai un parcours classique, alors en tant que saxophoniste, c'est un petit peu... c'est un instrument qui est très jeune, hein, qui date du milieu du 19e siècle, donc il y a très très peu de répertoire classique, il y a un concerto post-romantique, il y a beaucoup de transcriptions, et sinon il y a essentiellement un répertoire contemporain qui maintenant, depuis plus d'un siècle, ne cesse de s'étoffer, de jour en jour.
Très bien, ben, on recevra, je crois c'est jeudi, un autre clarinettiste, on recevra Philippe Gaïs.
Ah, saxophoniste. Qui a été mon professeur au conservatoire de Strasbourg à la fin des années 80. Ouais.
D'accord. Très bien. Eh bien, alors, je vais vous soumettre à tous les deux un questionnaire de Proust, et puis ensuite, on écoutera un extrait de ce disque du trio Frank Wolf. Vous aviez d'ailleurs invité pour l'extrait que l'on écoutera, mais on en parlera, André Ceccarelli. Mm-hmm. Alors, ce questionnaire, donc, Laurent, quelle est votre œuvre symphonique ou de musique de chambre préférée?
Ben, c'est le Sacre du printemps, Stravinsky.
Et vous, Franck?
Magnifique. En vrai, je devrais dire le Boléro de Ravel, parce qu'il y a du saxophone dedans. Mm-hmm. Mais j'aime beaucoup les concertos pour violoncelle, Schumann, Dvorak. J'aime bien les œuvres concertantes, en fait.
Concerto pour violoncelle de Schumann, qu'on n'entend pas très souvent.
Oui, absolument.
Votre chef d'orchestre préféré?
Rani Calderon, puisque c'est notre directeur musical à Nancy. Puis, lorsqu'il y aura un successeur, ben, c'est celui que je préférerai également.
Bon, si je vous dis votre animateur de radio préféré, c'est forcément moi, alors.
Ben, c'est forcément vous, Olivier, bien sûr.
Moi, j'ai travaillé avec Marco Lettonia à Strasbourg, et j'avoue que c'était une super expérience. Vraiment, vraiment un très très grand musicien, et on a fait une œuvre pour quatuor de saxophone et orchestre symphonique avec Strasax pour Sax Open au Jardin des Deux Rives. Il y avait 12 000 personnes dans le jardin, et c'était vraiment une expérience formidable.
Et Marco qui a prêté son orchestre au régisseur général Michel Birgel en Corée pour diriger une œuvre de Paul Boistel. Voilà, c'est une belle qualité du
compositeur alsacien. Oui.
Voilà. Oui. Votre personnage d'opéra préféré?
Alors c'est toujours compliqué. Alors je pensais toujours à Rigoletto parce que j'ai déjà une bosse un petit peu. Donc je me suis dit, ben voilà un personnage qui me plaît bien.
Ben, moi j'aurais dit Don Juan.
Félicitations.
Oui. Oh, non, ça paraît prétentieux. En fait, je suis pas du tout un séducteur, mais peut-être que j'aurais aimé l'être.
Oui, il termine mal aussi, le pauvre. Quel compositeur auriez-vous aimé?
J'ai déjà parlé de Stravinsky, donc je vais recommencer. Stravinsky était vraiment un compositeur qui a beaucoup marqué ma jeunesse, parce que j'ai trouvé dans ses œuvres, il y avait le rythme, les couleurs, quelque chose d'absolument incroyable. Ça m'a toujours beaucoup, beaucoup parlé, Stravinsky. Donc, être Stravinsky m'aurait plu. J'aurais été enterré à Venise, c'est pas mal aussi.
Jean-Sébastien Bach, parce que c'est paraît-il, c'est pas paraît-il, c'est d'ailleurs certainement le musicien classique le plus repris par les jazzmen, et c'était un très très grand improvisateur.
Mmh. Et quelle œuvre littéraire auriez-vous aimé écrire? Laurent.
Alors, il y a une œuvre de Barrico que j'aime beaucoup, qui s'appelle Novecento, qui raconte l'histoire de ce pianiste sur l'océan qui n'arrive jamais à sortir du bateau, ni en Amérique, ni en Europe, et dont la vie est à bord de ce bateau, dont le pays est ce bateau, et je trouve que la fable est très belle.
Franck. Moi, j'ai pensé au Parfum de Patrick Süskind, qui est un roman qui parle d'un jeune tanneur qui devient un serial killer parce qu'il a un odorat surdéveloppé. Et c'est un roman qui m'a beaucoup plu, notamment la description de ce sens qu'on finalement on utilise peu en musique, qui est l'odorat, quoi. Et la façon dont c'est écrit est vraiment très plaisante.
C'est des sujets d'opéra, peut-être?
Ah bah oui, 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 oui.
Alors, continuons. Quel est le mot que vous adorez?
Bonjour.
Franck.
Le partage.
Celui que vous détestez.
Au revoir.
Adieu, à ce moment-là.
Et quelles sont les qualités que vous appréciez chez un homme ou chez une femme?
Je pense l'investissement qu'on peut avoir vis-à-vis de ce qu'on a à faire, de ce qu'on veut faire.
Moi, j'aurais dit la sincérité, pas que dans les mots, mais aussi dans les actes, et également dans la musique, être sincère dans sa démarche musicale, dans son interprétation, ça me semble être une valeur très importante.
Et les défauts que vous ne pardonnez pas ?
C'est l'envie de nuire.
Oui, pas mieux, la méchanceté, la haine.
Et mon préféré, quel est votre juron préféré ?
Alors on va dire c'est épatant.
Tu peux le dire en alsacien ?
Oui.
Voilà, c'est dit.
C'est fait. Bien, eh bien, on va écouter un extrait de ce disque Frank Wolf et ses amis. Et j'ai choisi la première piste, Ravel, un extrait du Tombeau de Couperin.
Oui, que j'ai légèrement détourné. Je préfère prévenir les auditeurs classiques qui risquent d'être choqués par cette version très personnelle du Tombeau de Couperin. J'en ai fait un arrangement afin que je puisse improviser dessus sur une partie. Et puis j'ai coupé certaines parties de la mélodie afin qu'on ait une forme qui soit plus proche de ce qu'on fait habituellement dans le jazz. Et voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. C'est avec Marcel Leflaire à l'accordéon, David Epetroca à la contrebasse et André Ceccarelli à la batterie.
Et Ravel ne vous en aurait pas voulu, il adorait le jazz.
C'est vrai.
Écoutons. Thank you. Voilà un extrait du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel par le trio Frank Wolf. On rappelle les interprètes qui vous accompagnaient ?
Oui, il y avait André Ceccarelli à la batterie, Davide Petroca à la contrebasse et Marcel Leflair à l'accordéon.
Des projets prochainement, Franck ?
Oui, il y a des projets. En dehors du concert du 6 janvier à Urvillers, nous créons un concerto pour quatuor de saxophone et orchestre d'harmonie pour le 20e anniversaire de Strasax, qui est le fameux quatuor de saxophone dans lequel je joue depuis 20 ans. Et cette création aura lieu le 20 janvier à l'auditorium du conservatoire de Strasbourg, de la Cité de la Musique. L'entrée est libre, l'entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles. C'est un concerto de 25 minutes. Nous sommes trois plumes à écrire, donc chacun a écrit un mouvement. Il y a Christophe Fourmeau, Michael Alizon et moi-même. Et le tout a été orchestré par Bernard Struber pour l'orchestre. Et c'est une création, c'est une pièce qu'on va reprendre un peu partout en Alsace, enfin du moins dans le Bas-Rhin, tout au long de l'année 2018, donc à Blesheim, à Célestat, à Haguenau, avec différents orchestres.
Bon, une occasion d'aller écouter cette œuvre, Laurent.
Ah bah oui, c'est un très beau projet. Et puis les sociétés d'harmonie, c'est merveilleux. Bon, c'est une spécialité de l'Alsace et puis du nord de la France, mais aussi jusqu'en Moselle. Et c'est une belle tradition, ces orchestres d'harmonie, puisque dans les villages, c'est une manière aussi pour les gens de se rencontrer, de toutes les générations. Et ça a remplacé beaucoup de choses dans le ferment, dans l'agora du village. Faire de la musique, avoir une pratique musicale amateur ensemble, c'est génial.
C'est de la cohésion sociale.
Absolument, et puis c'est de la musique aussi, c'est du plaisir, c'est de l'émotion. Et puis lorsqu'il y a des artistes comme Frank Wolf, d'autres qui commencent à se dire « Ah ben, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça », et ben c'est tout simplement merveilleux pour les gamins de ces écoles de musique, de ces sociétés d'harmonie. Et ben voilà, ça leur donne aussi un univers, un regard différent de leurs habitudes aussi, de leur pratique quotidienne de la musique.
Alors vous êtes le directeur général de l'Opéra de Lorraine, mais vous êtes aussi le directeur de l'Orchestre Symphonique, et début janvier, il y aura un concert assez intéressant sous la direction du directeur musical de l'orchestre.
Oui, Rani Calderon, notre directeur musical, qui est là depuis maintenant 4 ans, qui avant cela était à Santiago du Chili, où il était directeur musical de l'Opéra. Et c'est un concert de musique française, si je me rappelle bien, avec Chausson, Chabrier, ça.
Oui, voilà. C'est ça.
Ben, vous voyez, vous en savez plus que moi. Ben, je suis obligé de me rappeler les œuvres. Oui, ben, oui, Chausson, déjà, c'est intéressant parce que Chausson, il y avait à Nancy le directeur du conservatoire qui s'appelait Repartz. Et Repartz a aussi été le directeur du conservatoire de Strasbourg, si exact. Je me rappelle bien. Mm-hmm. C'était un Breton. Et il a invité Chausson à écrire son poème. Le poème de Chausson a été créé à Salle Poirel à Nancy. Donc reprendre une œuvre de Chausson, ce ne sera pas le poème, mais ça nous paraissait important de faire cet hommage à ce compositeur. Chabrier, qui est peut-être un compositeur extrêmement charmant, en tout cas considéré comme tel, c'était surtout un très grand compositeur. Il avait une qualité d'écriture assez remarquable. Il y avait un spécialiste d'ailleurs à Strasbourg de... Si je me rappelle bien, il y a de nombreuses années, c'est M. Delage, absolument, qui était le grand spécialiste de Chabrier, qui a enregistré d'ailleurs à l'Opéra du Rhin de Montans des œuvres de Chabrier.
Auteur voilà. D'une biographie parue chez Fayard. Et puis il y aura un soliste aussi.
Ah oui, alors
Jean Flamme Bavouzé.
Ben oui, ça c'est le pianiste en vogue aujourd'hui. Mmh. C'est celui que. Qui est attendu sur les scènes un peu partout, donc on est ravis évidemment de l'avoir chez nous.
Et qui est originaire de Metz.
Qui est originaire de Metz, voilà, ça, tout peut arriver.
du Grand Est. On va continuer cette exploration des idées de cadeaux de Noël discographiques, mais auparavant, voici le moment du jeu. Je vais vous faire gagner un coffret d'opéra, Lohengrin, dans une version de référence, celle de Rudolf Kempe. Bien, pour gagner, il suffit de répondre à cette question très simple. Quelle est la tessiture du rôle de Lohengrin ? Est-ce un ténor, un baryton ou un contre-ténor ? Eh bien, vos réponses au 03 88 75 12 03, 03 88 75 12 03, et il n'y aura qu'un seul gagnant. De la musique de jazz, eh bien, on va passer à la musique de film avec la suite du Parrain de Nino Rota, dirigé, interprété par Riccardo Muti à la tête de l'Orchestre Philharmonique de la Scala. Merci à vous d'être passé à ce micro d'Accent 4. Et merci. Bon Noël à vous.
Merci pour l'invitation. Joyeux Noël.